Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez. Amis auditeurs, bonjour. En 2005, les caméras du monde entier se focalisaient sur le désastre humain, matériel, entraîné par la catastrophe nommée Katrina. Cette région de la Louisiane avait déjà été la victime des ouragans, mais celui-ci y passait la mesure en violence. Les années passent, un président se déplace, promet des aides, et d'autres cataclysmes attirent l'œil avide des caméras. Que reste-t-il à dire après tant et tant de drames? Ce qui appartient aux hommes qui l'ont vécu, ce qu'on peut leur restituer par l'écriture. C'est ce que Laurent Godet tente de faire en publiant « Ouragan » aux éditions Actes Sud en 2009. Nous vous avons lu la semaine dernière des extraits de la première partie de ce récit. Joséphine Ling Stilson, la négresse centenaire et libertaire, résiste à sa manière. Rose et Kenny Burns vont se trouver plongés dans un autre maelstrom personnel. Le petit garçon de Rose a disparu. Sa quête s'imbrique dans le tourbillon global. Pas de sentimentalisme. Chacun cherche et se cherche. Et ce sont des hommes debout que nous donne ce récit polyphonique.
Le jour s'est levé, mais je sais que le pire nous attend. L'heure vient, c'est celle des chacals. Et moi, Joséphine Ling Stilson, je sais reconnaître leur odeur entre mille. Je suis montée au premier étage et je me suis assise près de la fenêtre en faisant bien attention à cacher ma vieille tête de négresse derrière le voilage. Je veux voir sans être vue. Et je ne me suis pas trompée. Les ombres envahissent les rues et prennent possession de la ville. Ils seront pires que le vent. Je l'ai vue, moi, Joséphine Ling Stilson. Mes yeux ne me trompent pas. Un petit négrillon, pas plus haut qu'une chèvre. Un petit négrillon qui marchait d'un pas décidé. Je sais reconnaître ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je me suis dressée sur mes vieilles cannes de mule et je l'ai hélé. Petit négrillon, petit négrillon. Il s'est arrêté, le petit homme. Il m'a regardé. Il a pris tout son temps. J'ai tout de suite compris, à sa mine, que c'était un cas, celui-là. Un cas comme je les aime. Le genre à ne rien écouter que sa tête butée. 5 ans, 6 ans peut-être, mais déjà envie de défier la terre entière. Dur, le négrillon, avec un regard de rapace. J'ai su ce qu'il allait faire avant qu'il le fasse. Il m'a regardé, et puis il a filé. Je l'ai vu tourner au coin de la rue, comme ça. Il ne m'a même pas répondu, même pas fait un signe. Il s'est arrêté pour me montrer qu'il m'avait entendu. Il m'a regardé même, puis il a tourné les talons pour bien me signifier qu'il s'en foutait. Je sais que ce gamin ne va nulle part, je le sais, mais il y va avec une résolution de forcené. Le monde se tord de douleur, tout est sans dessus-dessous, et je ne peux rien, moi, même pas récupérer un gamin perdu dans la tempête.
Il a fallu du temps pour qu'elle se calme. Elle est restée longtemps les lèvres tremblantes à marcher d'une pièce à l'autre. Les minutes passées, elle ne prenait aucune décision. Elle s'agitait et se perdait dans sa propre panique. Où avait pu aller l'enfant? Comment allait-il faire pour le retrouver? Comment avait-il pu sortir sans qu'il n'entende rien? Et pour aller où? Elle s'enivrait de toutes ces questions. Il l'a prise dans ses bras pour qu'elle arrête de marcher et de tourner, et il lui a dit qu'il allait le retrouver. Elle le regarde maintenant avec un air étonné, se demandant en quoi cette histoire le concerne, en quoi la vie de son petit enfant raté peut l'intéresser. Mais elle ne lui en fait pas la remarque. Elle fait oui de la tête, sans rien dire. Il répète qu'ils vont le retrouver, comme pour s'en convaincre elle-même. Puis il lui dit de s'habiller. Elle obéit. Il quitte la maison. Lorsqu'il ouvre la porte, elle se fige, le regard perdu, contemplant avec horreur l'immensité de cette ville à fouiller.
Byron, ils ont pris instinctivement la direction du centre-ville. Elle crie sans cesse le nom de son fils. Byron ! Dans les rues silencieuses, sa voix semble infiniment seule et désespérée. Parfois, il distingue une silhouette à une fenêtre. Alors, il demande si quelqu'un a vu un petit garçon, 6 ans, marcher seul dans la rue, mais les gens disent non ou ne répondent pas. Tout en cherchant, il réfléchit que le gamin peut être n'importe où. Tout dépend de l'heure à laquelle il a quitté la maison. Il peut avoir 4 ou 5 heures d'avance sur eux, et dans ce cas, il a pu rejoindre n'importe quel point de la ville. Quelqu'un a pu l'intercepter. Il a pu se perdre 1000 fois. Il ne dit rien de tout cela à Rose, mais il sent d'emblée que chercher ainsi est absurde. Et pourtant, que peuvent-ils faire d'autre? Rester tous les deux dans la maison en attendant que tout cela soit fini, et qu'il y ait enfin un endroit où aller demander des informations sur les disparus, ou attendre qu'ils reviennent, seul, comme il est parti? C'est impossible. Leur peur a besoin de cette course. Ils regardent Rose. Pour l'instant, son angoisse l'aveugle et lui dissimule l'inutilité de la recherche. Alors ils courent, tous les deux, ponctuant leur marche par le nom du petit « Byron », comme s'ils demandaient au mur de la ville même de les aider.
The cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking.
Que fait-il, lui, l'enfant? Elle ne pense qu'à cela. Que fait-il à ce moment précis, tandis qu'elle marche dans l'angoisse? Est-ce que quelqu'un lui parle? Est-ce que quelqu'un se soucie de savoir ce qu'un enfant de cet âge fait dans les rues tout seul? Est-ce qu'il approche des gens qui l'appellent ou est-ce qu'il fuit lorsqu'on essaie de le mettre à l'abri? Elle connaît la réponse. Il lui semble le voir, avec sa moue entêtée, regardant fixement ce qui le hèle, puis leur tournant le dos. Elle le voit errant d'une rue à l'autre, rebroussant chemin lorsqu'il y a trop d'eau, sautant sur le capot d'une voiture pour rire, comme si la ville entière était un vaste espace de jeu. Qu'a-t-il, son enfant à elle, pour fuir ainsi les hommes et aimer le silence d'une ville qui se noie? Qu'a-t-elle fait naître en lui de tordu, à force de doute et de fatigue, pour qu'il contemple le monde avec un regard si circonspect? Elle l'imagine, et elle sait qu'il est seul quelque part, qu'il marche sans peur devant l'immensité des rues renversées. Elle sait qu'il ne s'arrêtera devant aucune maison et ne demandera l'aide de personne. Elle sait qu'il sautillera aussi longtemps qu'il aura des forces en lançant des cailloux dans l'eau. Elle le sait parce qu'il a en lui ce silence trop grand qui le rend étrange. Il n'est à personne. Peut-être est-ce pour cela qu'il regarde le monde comme quelque chose qui ne le concerne pas. Elle l'imagine, marchant à quelques blocs de là, sans peur, avec quiétude dans des rues vides. Et elle a peur de lui, de son opacité, de la force qu'il a face au silence. Elle a peur parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose dans cette ville inondée qu'il va aimer et qui lui ressemble.
Ils m'ont attrapée, moi, Joséphine, vieille roublarde increvable. Je me suis laissée attraper comme une gamine. Je n'ai pas fait attention. Au coin de la rue, la voiture a freiné. Ils ont jailli de leur énorme 4x4 aux vitres teintées et me sont tombés dessus. Lorsque je me suis retournée, il était trop tard, ils étaient sur moi. 2 gros blancs, un obèse et l'autre avec des tatouages sur le bras, qui n'arrêtait pas de parler. Il disait que ça allait aller, que je n'avais plus de soucis à me faire. Il m'appelait grand-ma et ne me laissait jamais répondre.
So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky.
Elle va d'un point à un autre du stade, de groupe en groupe. Dès qu'elle aperçoit des enfants, elle s'approche et regarde avidement. Elle lève parfois des couvertures sur les corps endormis pour en avoir le cœur net. « Byron ! Byron !» Elle appelle. Les enfants, parfois, tournent la tête, mais ce n'est pas lui. Les hommes, parfois, indiquent une silhouette de gamin, mais ce n'est pas lui. Le stade est immense. Elle avance patiemment. « Byron ! Byron !»
Moi, Joséphine Ling-Stilson, je comprends que je ne sortirai pas d'ici, et cela me fait enrager. Maudite bécasse de négresse que je suis de m'être faite prendre ainsi. Maudit cul blanc qui m'ont volé ma liberté. La foule est toujours plus dense autour de moi. Il ne cesse d'arriver des hommes et des femmes. Le stade se remplit. Je suis fatiguée. Maudite faiblesse de vieille bonne femme qui ne tient plus sur ses jambes. Je sais que je ne devrais pas, mais je m'assois. Je trouve une place sur les marches du stade, là, au hasard, et je m'assois. Je sais que, à cet instant, je deviens une pauvre petite vieille qui fait pitié, un sac d'os fatigué. C'est ainsi qu'ils me considèrent tous, alentour, je le vois. Ceux qui me regardent du coin de l'œil le font avec une tristesse désolée. Ils doivent se dire que c'est moche d'être une vieille négresse seule qui ne tient plus sur ses jambes en pareille occasion. Je repense au bayou, à Marley. Si tout s'effondre, ma maison, ma ville, à quoi puis-je tenir qui ne croulera pas? À quoi que la tempête ne puisse atteindre et qui fera de ma vie, malgré le trop d'années qu'elle a duré, un pari tenu? Je vois les hommes passer, et ce n'est que des arrois. Ceux qui sont là n'ont rien, ont tout perdu, errent comme des damnés. Je vois leurs regards, désolés, et je ne peux m'empêcher de penser que j'ai de la chance que ma vie soit derrière moi.
Alors, elle ose. Elle prend la parole et demande à un homme de la Croix-Rouge s'il a vu un jeune garçon de 6 ans, tout seul. Il la regarde avec un air désolé, fait non de la tête et montre le stade tout autour en levant les épaules avec un geste d'impuissance, comme s'il voulait lui dire qu'il y avait trop de monde ici, beaucoup trop, et qu'il ne pouvait pas se souvenir de tous les visages. Elle ne dit rien. Elle baisse les yeux. Elle se met à trembler pour son enfant qui n'est pas là. « Tous ceux qui sont ici seront évacués, » a-t-il dit, et elle voudrait crier pour son enfant qui ne le sera pas. Alors elle s'éloigne. Elle veut être seule. Elle cherche un endroit pour s'asseoir, finit par trouver un siège près d'une vieille dame au regard noir. Elle lui propose un peu de sa bouteille et la femme lui dit « Merci, ma fille !» et boit goulûment.
« Merci, ma fille !» j'ai dit de ma voix de négresse, et la jeune femme a sursauté parce que l'intonation avec laquelle je l'ai dit contrastait avec la faiblesse de mon vieux corps.
But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mammy standing by.
Il marche d'un pas pressé. Il sait que cela est absurde, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il pourrait tout aussi bien tomber sur l'enfant s'il ne bougeait pas, s'il s'asseyait sur le trottoir et attendait. Il y aurait exactement autant de probabilités qu'il finisse par le retrouver mais il ne peut s'empêcher de courir. Il veut être dans cette nervosité-là. Il regarde à gauche, à droite. Il appelle parfois. Il marche. 50 mètres plus loin, soudain, il se fige, comme tétanisé. Une explosion vient de retentir. Quelque chose s'écroule. Un bruit de gravats emplit le ciel. C'est un immense immeuble à 3 blocs de là qui s'effondre comme un château de sable dans la vase. Il entend ce bruit, et en une seconde, il est à nouveau sur sa plateforme. C'est le même bruit de craquement, la même fumée qui monte. Il se met à trembler. Il lui faut de la force pour se contenir. Il a du mal à respirer. Il est sur le point de crier à nouveau, comme c'est autrefois sur la plateforme. « Lâchez-moi, lâchez-moi !» alors que personne ne le tenait, mais il pense à l'enfant. L'enfant perdu qui n'est pas de lui, l'enfant bâtard, il pense à lui et reprend sa marche. À cet instant, un homme arrive sur lui, en robe de chambre avec des tongs aux pieds. On dirait qu'il vient de se réveiller. Il court dans sa direction, agitant les bras comme un épouvantail. Il croit d'abord qu'il va s'arrêter, lui dire quelque chose. Mais ça n'est pas ce qu'il fait. Il poursuit sa course. À tous ceux qu'il croise, l'homme dit la même chose, sans s'arrêter. Que les digues ont lâché, sur le lac Pontchartrain, les digues ont lâché. L'eau arrive, et il continue à avancer en agitant les bras. Il répète toujours les mêmes phrases. Que les quartiers nord sont déjà sous 2 bons mètres d'eau. C'est le pire qui vient, dit-il, le pire. Et il passe sans s'arrêter. En voyant l'homme en robe de chambre, il ne pense pas à ce qui va se passer. Il ne pense pas à la ville engloutie. Il se dit simplement que l'enfant ne va pas pouvoir aller vers le nord, et que l'eau, peut-être, va le lui ramener.
Je les entends qui se lèvent, qui s'agitent, qui paniquent. Je ne bouge pas, moi, Joséphine Ling-Tilson, négresse immobile dans un monde en bascule. Une rumeur tourne dans le stade et prend de l'ampleur. Ils ont peur, partout, je peux le sentir. Certains se lèvent, d'autres tremblent. La rumeur me parvient, relayée par toutes ces bouches, la rumeur qui transforme les visages en les tordant d'angoisse. Il y a de l'eau dans les vestiaires, des fissures, ça craque de partout. L'eau suinte des murs, elle nous poursuit jusqu'ici. Elle a déjà empli certaines pièces des sous-sols. Elle ne nous laissera pas en paix. Je l'ai dit dès que je l'ai senti. C'est une vicieuse qui nous est tombée dessus et elle nous harcèlera comme une teigne. There's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Ils se sont souvenus de nous, comme ils finissent toujours par le faire, trop tard. Lorsque nous sommes sales et épuisés, lorsque nous sommes en colère d'avoir été oubliés, alors ils sont venus comme ils viennent toujours dans ces cas-là, la main tendue d'un côté et les doigts pour se boucher le nez de l'autre. L'écart arrive au goutte à goutte, 8 d'abord, puis 6, puis 8 à nouveau. Cela prendra des jours. Ils ont tiré en l'air pour effrayer le nègre. Depuis toujours, ils aiment ça. Je ne monterai pas. Je suis Joséphine Ling-Stilson. Je prends le bus tous les matins pour que les vieux blancs baissent les yeux devant ma liberté. Je ne veux pas monter comme ça, comme une bête apeurée que l'on sauve par charité. Alors, je reste assise. Ils se pressent tous là-bas. Je sais qu'ils viendront me chercher, et je ne pourrai pas faire autrement que de les suivre, mais je veux le faire à ma manière. Je n'ai pas encore trouvé. En attendant, je les écoute tirer en l'air pour que nous soyons dociles et obéissants, et je ne bouge pas.
C'est là, au coin des rues Jackson et Willow, qu'il le voit. Il se fige. Il plisse les yeux pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Mais c'est lui, c'est bien lui. Alors il crie, immobile d'abord, puis en courant de toutes ses forces dans sa direction. Il crie, Byron ! Et le petit tourne la tête.
Je l'ai vu, là, en haut des gradins. J'ai compris tout de suite que j'avais trouvé ce que je cherchais et j'ai souri en mon esprit. Le combat. C'est à cela que je peux m'accrocher. Le combat, comme je l'ai toujours fait. Et Marley sourira. Il sera fier de moi. La vieille Joséphine Ling-Stilson n'a pas fini d'étonner le monde. Je suis faite comme ça. » Ils sont en train d'achever l'évacuation. Plus personne ne gêne les bus maintenant. Les gens ont compris, cela va plus vite. Il arrive des hélicoptères, régulièrement, qui se posent devant le stade en faisant voler les vieilles couvertures et les bouteilles en plastique vides. Ils travaillent à plein régime pour pouvoir dire qu'ils font le maximum. L'évacuation générale de ces négrillons qui ont tant de mal à écouter les consignes, de ces négrillons qui ont couvert le stade de merde et de souillure, de ces négrillons qui sont tellement indisciplinés qu'ils ont rendu leur propre évacuation presque impossible. L'évacuation bienveillante des nègres bouseux vers Houston bat son plein. Les caméras de télévision sont là. Le stade se vide de réfugiés et continue à se remplir d'eau. Et je monte, moi, jusqu'au dernier gradin. Là, je prends le drapeau qui est tombé au sol. J'ai trouvé. Joséphine Lingstilson, négresse jusqu'à sa mort, va gifler le monde. Je vais monter dans le bus, mais je le ferai libre, comme toujours.
Ils avancent lentement. Il a mis l'enfant sur ses épaules. Il a de l'eau jusqu'aux genoux, une eau trouble et épaisse. À chaque pas qu'il fait, il sent la résistance passive des flots contre lesquels il doit se battre. Il avance et l'enfant ne bouge pas. Parfois, il lui parle. Il dit « Courage, fils !» Il dit « Allez, je te ramène à la maison !» Il dit « Ta mère t'attend !» Et il sent que l'enfant l'écoute. Il en est certain. Il y a dans l'immobilité de l'enfant quelque chose d'attentif. Plus il avance et plus l'eau monte. En arrivant dans le Lower Ninth, il en a jusqu'à la taille. Mais il continue. Il ne croise plus personne. Le quartier semble totalement abandonné. Ils sont seuls dans ce monde englouti. « J'ai soif !» Il s'arrête. L'enfant a parlé. C'est la première fois qu'il s'adresse à lui. Alors il sourit. L'enfant ne le voit pas, mais en reprenant sa marche, il sourit et lui dit que bientôt ils vont boire tous les deux, qu'il faut être patient, encore un tout petit peu patient, qu'ils seront bientôt à la maison, et que tout va aller bien. Il poursuit sa route, les épaules écrasées par un poids qu'il aime de plus en plus.
Ils sont là, tous les deux, sains et saufs. Elle ne peut plus parler ni bouger. Elle sent que quelque chose est complet à cet instant, et cela fait tellement longtemps qu'elle se sentait amputée et boiteuse, qu'elle ne sait pas nommer ce bonheur. Son fils raté et son homme perdu, ils sont là, tous les deux, face à elle. Le ciel ne contient pas assez d'air pour qu'elle respire à sa mesure.
C'est mon tour maintenant. Deux blancs becs s'approchent de moi et répètent plusieurs fois les mêmes phrases, comme s'ils avaient peur que je ne comprenne pas. Ils disent qu'il faut y aller, que j'aurais dû me présenter avant, eu égard à mon âge, que j'aurais même dû être une des premières à partir. Alors, je leur fais signe de me laisser quelques secondes, et ils le font. Avec étonnement, mais ils le font, car la vieille Joséphine Lingstilson a de l'autorité dans les gestes. Je déplie le drapeau et je le mets sur mes épaules comme un châle, puis seulement je les suis. Je veux qu'ils me voient tous. Je suis la dernière à partir. Je le fais de force. C'est ma terre ici que je n'ai jamais quittée. La terre de mes ancêtres qui s'y sont fait humilier. La terre où ils ont massacré mon amour, mon seul amour d'homme qu'ils ont défiguré à coups de crosse, puis noyé dans les bayous. La terre à laquelle je reste fidèle. C'est chez moi, ici. Les grenouilles me comprennent. Les lucioles m'entourent. Je parle aux jacinthes flottantes. Honte à ce pays que je porte sur les épaules et qui nous a oubliés. Honte à ce pays en lambeaux qui continue à cracher sur ses nègres. Je suis là, Joséphine Lingstilson, et ce soir, c'est moi l'Amérique. Je monte dans le bus, comme j'y montais à 7 heures du matin, avec fierté et aplomb. C'est la première fois de ma vie que je vais quitter la Louisiane, et cela ne me plaît pas. Mais ceux qui me regardent avec apitoiement, ceux qui voient en moi une vieille déracinée qui va finir ses jours dans un centre d'accueil provisoire, ne comprennent rien. Je suis Joséphine Lingstilson. Je monte dans le bus avec l'Amérique tout autour de moi, sur mes épaules, dans mes cheveux, et j'ai le regard dur. Personne n'a osé m'aider à monter parce que je suis altière. une princesse nègre aux cheveux blancs qui quitte son pays sans trembler parce qu'elle sait qu'elle emporte avec elle. Et la Louisiane monte avec moi, les bayous, les jacinthes et leur odeur écœurante, le corps jamais retrouvé de Marley, les regards d'insultes dans le bus, l'ivresse de la victoire après des années de lutte, et même le vent, tout monte. Je ne laisse rien derrière moi. Je suis la Louisiane, les flots et l'ouragan. Les hommes me laissent passer, bouche bée. Nous roulons vers le Texas. Les gens s'agglutinent sur les routes, le long de notre passage. Une foule d'hommes et de femmes sont venus là pour témoigner leur solidarité. Ils brandissent de petits drapeaux et secouent les mains pour nous saluer. Ils ont écrit des pancartes qu'ils nous montrent au passage. Nous ne vous laisserons pas tomber. Je n'ai besoin de personne pour m'aider à me tenir debout. Je les regarde. Me voient-ils vraiment? Ou ne voient-ils que le reflet de leur bonne volonté? Nous approchons de l'aéroport de Houston. C'est là, paraît-il, qu'ils vont nous entasser. Le car ralentit. Et sur le bord de la route, je commence à voir les visages changer. Ils nous discernent mieux maintenant. Ils peuvent nous compter et voir qu'il n'y a qu'une seule couleur dans le bus, noir, car nous n'avons pas changé de couleur. Je suis Joséphine Link-Stilson, mère de toutes les nègres, et je vois qu'ils comprennent enfin que tous ceux qu'ils ont laissés derrière eux étaient noirs. Ils ont honte. C'est bien. J'ai souvent provoqué la honte dans le regard des autres, et je m'en accommode. Qu'ils baissent les yeux, qu'ils rangent leurs pancartes. Nous n'avons besoin de personne. Nous sommes noirs, et nous savons marcher. Jamais, moi, Joséphine Link-Stilson, je n'ai vu pareil chaos. Le bus s'est arrêté devant l'aéroport, et ils nous ont fait descendre. Nous sommes entrés dans le grand hall des départs. Et c'était un amas gigantesque d'hommes et de femmes épuisés. J'entre la dernière et je les embrasse du regard. Mes frères, mes sœurs ridées, mes enfants aux lèvres sèches et aux yeux cernés. Une ville entière se tient là, avec des couvertures pour seule richesse. Nous n'avons plus rien. Le drapeau que j'ai gardé me tombe sur les épaules. C'est la bannière de la honte. Les étoiles de l'Amérique ne me tiennent pas chaud. Il ne me donne à manger. Je ne me plains pas. Je veux que le monde voie que moi, Joséphine Link-Stilson, je suis en colère, 100 ans de colère inapaisée, et que j'apporte partout où je vais une longue traîne de honte et de révolte. Il en a toujours été ainsi. Je regarde le hall rempli de familles, d'enfants et de grelottements, et je sais que ce n'est pas ici que je mourrai, car ici, ce n'est rien. Alors, je fais comme toujours. Je fais comme je sais faire. Je rentre en moi-même et je jure avec férocité que les choses iront telles que je les ai décidées. Je suis Joséphine Link-Stilson, négresse des Bayous. Je promets que je rentrerai chez moi. C'est ainsi que je vais mourir, quand je l'aurai décidé, sur ma terrasse, libre et noire. Je le dis et ce sera, que le monde brûle s'il ne m'accorde pas cela. Le jour se lève, et moi, Joséphine Link-Stilson, je devine que quelque chose se prépare. Alors, je sors sur le parking pour flairer le fond de l'air. C'est là, je le sens, de très loin. Les eaux commencent à baisser. Je le murmure, je le répète encore et encore, à voix haute pour qu'ils entendent tous. Les eaux commencent à baisser. Je le sens parce que je porte les marécages en moi et leurs imperceptibles tremblements. Je le sens par ma jeunesse aux pieds nus, par mon mari assassiné qui y gît encore, accroché à une racine ou bloqué sous une souche. Les eaux commençaient à baisser. Je le dis. Je sais que tout va prendre fin. Ne vous en faites pas pour moi, toute vieille que je sois, car je sais, moi, et vous pouvez me croire, que je rentrerai chez moi. C'est sur vous que je pleure, car beaucoup sont là, qui ne retrouveront ni leur toit, ni leur vie d'autrefois. Moi, Joséphine Ling-Stilson, increvable négresse, je vais pouvoir me rasseoir sur ma terrasse, et la chienne ne sera pas venue à bout de moi. Je le dis, et c'est ce qui sera.
Il ne va pas jusqu'au supermarché. Sur Caffeine Avenue, il découvre un camion en travers de la route. Son visage s'illumine. Il avance avec l'avidité d'un chasseur. C'est un camion de livraison. La porte arrière est fermée. Il essaie plusieurs fois de la forcer, mais en vain. Il décide alors de passer par les sièges avant. Lorsqu'il rampe à l'arrière, il découvre avec joie qu'il y a encore un peu de tout dans le véhicule. Des paquets de gâteaux, des bouteilles de soda, quelques boîtes de céréales. Il prend le plus qu'il peut, comme un pilleur de tombes, avide et pressé. Puis, il ressort, heureux. L'eau, qui lui monte jusqu'à la taille, ne lui fait plus rien. Il est bien. Il a trouvé de quoi nourrir Rose et l'enfant. Et pour l'instant, son bonheur ne va pas au-delà. Il revient sur ses pas. Lorsqu'il arrive en haut de la rue, il aperçoit, à une dizaine de mètres de la maison, la silhouette d'un homme armé. Son visage se rembrunit. Il pense à un rôdeur. Il serre contre lui ses victuailles, décidé à les défendre bec et ongles, s'il le faut. L'homme ne l'a pas encore vu parce qu'il lui tourne le dos. Il devrait se cacher derrière une voiture. Attendre le temps nécessaire, rester terré jusqu'à ce que la voie soit libre. Il devrait. Il y pense. Mais il ne prend pas le temps de le faire. Par fatigue, par refus de se cacher, ou parce qu'il va à son destin, il continue à marcher, lentement, bien au centre de la rue. Il avance, et à cet instant, il sent encore qu'il peut tout désamorcer, car il a vu l'homme trembler tandis qu'il le mettait en joue, et il sait qu'il pourrait encore lui faire baisser son arme. Il suffirait de parler, de dire quelques mots, mais le silence s'est emparé de lui. Il y a quelque chose en lui qui ne veut plus rien dire, juste avancer. Alors, il fait encore un pas et le coup de feu éclate.
One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you spread your wings and you'll take the sky.
Moi, Joséphine Ling-Stilson, négresse obstinée à rester négresse, je sais maintenant où tout finira. Je ne suis plus utile à rien pour tous ceux qui m'entourent, ces hommes et ces femmes qui vivent dans l'angoisse, mais je peux chanter. Oh oui, Joséphine Ling-Stilson peut figer l'air de sa simple voix, qui charrie tant de douleurs et de vieux combats. Alors, je le fais, je chante, et tout s'arrête.
Elle regarde son fils, le bâtard de vie qui ne lui était rien, et il a un nom dorénavant. Pour elle, il a un nom, c'est l'enfant de la tempête, l'enfant offert par Ken Burns au moment de mourir. Le reste est balayé. Elle sait qu'elle ne le regardera plus avec dégoût. Il a un nom maintenant, et elle l'appellera fils en pensant à cet homme. Elle le verra grandir en pensant à cet homme. Il a une histoire, car il est né, enfin. Il est né 6 ans après être sorti de lui, de son corps endolori. Il est né parce que quelqu'un qu'elle aimait le lui a donné. Alors elle le reçoit, seule, dans cette chambre d'enfant, tandis que le corps de son amour se raidit de mort dans la chambre d'à côté. Elle le reçoit. Les pales d'un hélicoptère grondent au-dessus de la maison. Pour l'heure, elle n'y fait pas attention. Elle regarde son fils qui vient de naître.
Et je chante, moi. Joséphine Ling-Stilson, je chante la douleur des terres perdues et des maisons détruites, et les femmes pleurent en entendant ma voix. Mais je fais plus, car je n'ai jamais aimé les pleurs. Je chante la force de se relever et le désir de combat, et ma voix se fait plus rocailleuse, et on entend, dans la hargne avec laquelle je détache les syllabes quand je chante, le nègre exploité, la mère endeuillée.
Elle ne prête pas attention au bruit des pales. Mais elle sursaute d'un coup lorsqu'elle entend le haut-parleur qui demande si quelqu'un est encore là. Alors, elle sait que tout va prendre fin. Elle sait qu'elle va apparaître à la fenêtre et qu'on la tirera de là, elle et son fils.
Et je chante, moi, de ma voix de colère sur les rues inondées. Je chante sur les visages épuisés pour qu'ils soient au moins caressés une fois.
Elle sait qu'elle va s'éloigner et que, dans l'hélicoptère, on lui mettra une couverture sur les épaules et une autre sur celle de son fils. On lui donnera de quoi manger et boire et on la pressera de questions. Elle sait qu'ils lui expliqueront qu'ils ne peuvent pas prendre le corps du mort parce que le plus urgent est de se consacrer aux survivants.
Alors je chante, moi, sur les morts qui disparaissent dans les rues inondées, le corps mou et les bras flottant dans l'eau sale.
Elle sait qu'ils la regarderont avec une sorte de pitié et peut-être un d'entre eux lui dira qu'elle a traversé l'enfer comme pour lui faire comprendre qu'il compatit. Elle lèvera les yeux alors, mais elle ne pourra pas dire ce qu'elle voudra dire, car ce sera trop long, parce que le bruit des pas l'obligerait à ruler. Elle ne pourra pas dire qu'elle quitte l'ouragan à regret, parce qu'il lui a donné un homme au cœur de la pluie, un homme avec de larges épaules et un souffle posé. Elle ne dira rien.
Moi, Joséphine Lingstilson, toute négresse que je sois, malgré mes 100 ans passés, car le ciel s'est ouvert et nous avons fait face à notre propre nudité, je porterai les enfants effrayés, ma voix les rassurera, et lorsque je mourrai, libre, sur ma terrasse, toujours négresse, à l'instant que j'aurai choisi, lorsque je mourrai, souvenez-vous de moi et gardez le regard droit.
Till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by.
Au final, c'est la musique qui prend le pas sur les mots. Musique, rythme incantatoire des mots, ce récit est comme un conte initiatique pour tous ceux qui vivent cet ouragan, et leur voix se mêle en un gospel très spécial. Nous espérons vous avoir donné envie de lire ce roman de Laurent Godet. D'autres voix que nous n'avons pu vous faire entendre se trouvent dans ce récit choral, celle de prisonniers évadés, d'un prédicateur au mysticisme fanatique. Et toutes ces voix sont autant de points de vue qui, en se superposant, en s'enchevêtrant, participent à la progression du cyclone qui modifie et révèle toutes choses et chacun. Cette émission, comme la précédente, a été préparée et lue par Annie, Valérie, Philippe et Anne. La musique choisie pour cette émission est celle de Summertime, interprétée par Billie Holiday. La technique est assurée par Vincent.
So harsh, little baby, don't you cry. Going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez